Chapitre 17. Ethan Gabriel avait digéré sa stupeur. Il était installé à une table du mess de Darwin, sous la baie vitrée qui donnait du côté de l'océan, avec Romy en face de lui. Zoé l'avait invité à partager le dîner avec elle. « Je piche que dalle à cette histoire de fréquence », avoua Romy devant sa salade de quinoa à peine entamée. Ethan posa ses couverts pour réfléchir à la meilleure approche pédagogique. « Tout ou presque dans le monde est une question d'onde », dit-il. « Le son que tu entends, ce sont des ondes acoustiques qui se propagent. Prenons ma voix. Elle pousse de l'air selon les vibrations précises que mes cordes vocales provoquent, avec la puissance de mes poumons. En gros, ce sont des particules, tu vois les atomes, qui se mettent à vibrer d'une manière bien particulière, et cette onde se propage entre moi et toi, jusqu'à tes oreilles. Là, tes tympans reçoivent l'onde des vibrations, et ils traduisent ça, grâce à ton cerveau, en sons que nous avons appris à rendre intelligibles selon nos codes communs. Notre langage, par exemple. Mais tout part de vibrations. Les hertz, c'est le nombre de vibrations par seconde pour chaque son. Donc, ce que j'entends, ce sont des ondes, comprit Romy. Oui, des ondes sonores, donc mécaniques. L'univers entier est constitué d'ondes en réalité, de différents types, mais ça n'est pas le sujet. Zoé écoutait en regardant par la baie vitrée. Le jour déclinait très rapidement sur l'équateur. Le crépuscule était bref, presque aussi instantané que s'il était relié à un interrupteur. Mes sphères veillaient sur eux, au-dessus, avec son œil intense d'un blanc doré qui prenait la relève pour la nuit. Cette luminosité particulière était en train de se révéler à mesure que l'astre solaire s'enfonçait loin d'eux, hors du champ de vision de la baie. « Donc, c'est quoi cette histoire de fréquence d'harmonie absolue ?» insista Romy. « J'y viens, » dit Ethan. « Maintenant que tu sais que tout est onde ou presque, à commencer par les sons, as-tu déjà remarqué ce que les musiciens d'un groupe ou d'un orchestre font avant de jouer ?»« Ils s'accordent ?»« Oui, mais pour s'accorder ensemble, il faut avoir une note de référence. Prenons une guitare. Je peux avoir chaque note plus ou moins grave si je tends ma corde plus ou moins. Ça ne va pas être le même son. Pourtant, je peux m'arrêter sur un do, accorder mes cordes entre elles, qu'elles sonnent juste. Mais pas du tout comme celle de la guitare de mon voisin si son do de référence est quelques commas plus haut ou plus bas que moi. Comment je sais que mes cordes sont tendues exactement comme celles de l'autre guitare? Il faut bien une référence commune, non? C'est ici qu'intervient une norme qui est la même partout dans le monde. La note La, qui résonne à 440 Hz, soit 440 vibrations par seconde. Moins de vibrations, et ce sera plus grave. Inversement, je peux avoir un La à 466 Hz, et alors il sera un peu plus aigu. Ce sera même un La dièse. Tous les instruments du monde sont réglés à 440 Hz? De base, oui. C'est la norme ISO de référence qui sert partout pour s'assurer que les instruments peuvent jouer tous ensemble, partout dans le monde. Mais sphère n'est pas à 440 Hz. J'y viens. Cette norme a été instituée en 1939. Avant, c'en était une autre. Autant te dire que 1939, ça a donné pas mal de théories plus ou moins fumeuses sur l'influence des nazis et leur volonté de contrôler les foules par la musique. Bien sûr, c'est bidon. Mais donc, en 1939, on décide de changer et de passer tous en La 440 Hz. Il a fallu quelques années pour entériner ça. Je te passe les détails. Avant, c'était à 432, c'est ça? Exactement. La raison du changement, c'est certainement une histoire politique, de lobby d'un télo contre d'autres et une volonté de changer pour changer, mais qui ne repose en réalité sur aucune donnée scientifique ou musicale réelle. Sauf que le 432 Hz est une espèce de vieux mythe. C'est Verdi qui l'avait imposé en son temps. Bien sûr, on ne parlait pas en Hertz à l'époque, mais le diapason de référence était sur ce que nous appelons aujourd'hui du 432 Hz. Depuis, tout un tas de penseurs farfelus, de mystiques, d'ésotéristes et de gens parfois très sérieux ont défendu l'idée que le 432 Hz est la fréquence de l'harmonie absolue. Ce serait celle où les deux hémisphères de notre cerveau peuvent être parfaitement synchronisés par le son, la fréquence du bourdonnement de la Terre, du cosmos. Pour des mathématiciens excentriques, ce serait un nombre parfait, qu'on retrouve au cœur de tout depuis Pythagore lui-même. Si on fait osciller de l'eau à 432 Hz, elle cristallise sous des formes géométriques magnifiques et parfaitement organisées. Et j'avoue que c'est sublime. Alors que la même expérience à 440 Hz donne des résultats anarchiques. Et sous prétexte que ça fonctionne avec l'eau, source de la vie, tous les adeptes de bizarrerie s'y sont engouffrés. Il y a encore beaucoup d'exemples. Bref, si tu tapes 432 Hz et fréquence sur Internet, tu vas tomber sur toutes les propositions les plus fantasques pour expliquer que c'est la perfection harmonique. Et c'est pas vrai. En tout cas, ce n'est absolument pas prouvé. Et le truc de l'eau qui cristallise en motif, ça n'authentifie rien? Si tu conduis 1000 expériences et qu'une donne un résultat, est-ce que c'est une preuve ou juste la probabilité de tomber sur quelque chose au hasard parmi 1000? Statistiquement, c'est une coïncidence, mais ça n'interdit pas que ce soit vrai non plus. Zoé, restée en retrait, avait déjà eu cette discussion plus tôt dans la journée. Elle intervint. Mais Sphère pulse à 432 Hz, et ça, c'est une réalité. Ethan acquiesça. En tout cas, il y a quelque chose qui vibre à cette intensité, et c'est constant. Pourquoi on l'entend pas alors? S'enquit Romy. Parce qu'une fréquence a une intensité. Plus elle est faible, moins tu peux l'entendre, et plus elle est forte. L'intensité des 432 Hz de Sphère doit être faible. Inaudible d'ici. On en tire quoi comme conclusion? Voulut savoir la jeune femme. Le musicien secoua la tête. Je l'ignore, mais là où je te rejoins, Zoé, c'est que c'est trop symbolique pour être le fruit de la chance. Je n'y crois pas une seconde. Zoé eut soudain une idée. Ça pourrait être un canal sur lequel s'aligner pour entamer une discussion. Comme dans ce vieux film « Rencontre du troisième type » où il parle avec des extraterrestres via de la musique. Attention, là tu entres dans un autre type d'onde. Le son, c'est une pression mécanique, donc des ondes acoustiques, alors qu'émettre un signal radio passe par des ondes électromagnétiques. La différence? Demanda Zoé. Je ne suis pas expert du sujet, hein, alors j'espère ne pas dire de conneries. Mais les ondes électromagnétiques sont la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique. On les calcule aussi en Hertz, le nombre d'oscillations par seconde. Et à mains égards, c'est un phénomène très semblable au son, mais ça reste un autre type d'onde. Je vous l'ai dit, tout ou presque dans l'univers est une question d'ondes, mais elles sont différentes. Cela dit, puisqu'on calcule aussi les ondes électromagnétiques en Hertz, un signal à 432 Hertz est possible. C'est de l'UBF, l'ultra basse fréquence en radiofréquence. J'avoue ne pas y connaître grand-chose, il faudra en parler avec les bonnes personnes, mais c'est peut-être une piste pour instaurer un dialogue. Genre, on va lui parler? Fit Romy. Ethan fit une grimace qui signifiait qu'il ne savait pas. Cela dit, je sais que des UBF ont parfois été détectés par des stations de surveillance avant de gros séismes. Si on revient à un rapport entre Sphère et la Terre, il pourrait y avoir un lien. Et émise par qui? S'étonna Zoé. Je ne sais pas. Un phénomène naturel, probablement. Peut-être le son provoqué en interne par des chocs sismiques de très basse profondeur. Une sorte de grondement des entrailles. Et que Sphère émette le même son ne vous fait pas flipper? Remarqua Romy. Genre, elle prépare un truc ou cherche à nous prévenir? Mère et fille se regardèrent. Zoé prit la main de sa fille. Elle avait besoin de la toucher. Plus ils avançaient dans l'étude de Sphère, plus cela devenait nébuleux. Zoé fut alors traversée par un doute désagréable. Elle n'était plus sûre que les réponses qui seraient au bout puissent leur plaire.